Nous sommes aujourd'hui donc avec Ben Kramer, qui est donc qui a fait des études de polémologie. Donc c'est un terme que je ne connaissais pas. En fait, ça veut dire donc science de la guerre, exactement. Donc
non, mais c'est fait exprès. C'est fait exprès pour que les gens comprennent pas.
Ah oui, ouais. Justement. Mais sinon, on peut aller aussi chercher, comme je l'ai fait, en tant que journaliste, on va dire, entre guillemets, pour comprendre l'origine de ce mot.
Ça a été découvert par un Français, d'ailleurs.
Ah oui.
Gaston Boutoul, qui a eu une très belle histoire d'amour avec Louise Weiss. Et à partir de là, à partir de là, on va dire, ils ont créé la première fac de polémologie à Strasbourg, qui existe D'accord. toujours, d'ailleurs. Mais avant, il y avait dans chaque faculté, dans chaque université, il y avait un département de polémologie en France. Comme il y en a d'ailleurs toujours aux Pays-Bas et ailleurs.
Polémologie.
Ouais. Ça vient de polémos. Polémos, c'est comme la polémique. C'est la même racine.
D'accord.
D'accord. Donc vous êtes aussi... vous avez animé un cycle de formation donc, sur paix et développement durable. Donc on en parlera justement... au cours de l'émission. Vous êtes aussi un confrère parce que vous êtes journaliste, écrivain et journaliste. Ouais, vous avez animé aussi une émission de radio auparavant.
C'est vrai.
Sur RFI.
Petite radio locale.
C'était Fréquence Terre. Vous étiez par exemple ex-producteur d'émission. Moi je vous avais entendu en fait notamment. Vous faites aussi surtout partie donc de l'association des journalistes pour l'environnement. De l'environnement.
Ouais, moi je dis pas pour l'environnement.
D'accord, de l'environnement, c'est vrai que c'est.
Oui, parce que.
Quand j'avais cherché, c'était écrit pour l'environnement.
Oui, mais c'est une erreur. Parce que le journaliste qui, par exemple, traite d'économie, on va pas lui dire qu'il est pour l'économie.
Oui, bien sûr.
Les journalistes. Non, mais c'est vrai, c'est deux, quoi.
Et justement, qu'est-ce que c'est
d'être pour l'environnement.
De l'environnement.
De l'environnement.
Ce sont donc des journalistes l'environnement.
Il y en a plein. Il y a plein de journalistes. Il y en a au moins 150 qui sont au sein de leur rédaction, qui sont chargés de traiter davantage de ces questions-là. Nous, au sein de notre assos, c'est vrai, on récolte surtout les gens qui sont de la presse écrite.
D'accord.
C'est les. Au fond, c'est les prolos de la bande. Les gens de la radio, les gens de la télé, ils ont peut-être plus de facilité. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup parmi ces journalistes-là sont des pigistes aussi. Ils ne sont pas tous vraiment rattachés à un journal. Ils sont souvent rattachés à plusieurs journaux. Et donc, ils ont aussi un problème à la fois de communication et à la fois un problème tout simplement d'avoir envie de se sentir plus fort, plus solidaire ensemble, comme un club de. Je sais pas, de
chômeurs.
Pétanque. De chômeurs.
et
c'est. Non, là où c'est intéressant, surtout, et ça c'est pour faire aussi de la pub pour notre association, c'est que. Il y a quelques années, il y a 20 ans, les journalistes avaient l'impression qu'ils savaient tout. Aujourd'hui, c'est le contraire. Ils ont l'impression qu'ils savent rien. Et c'est vrai que pour suivre un débat sur les OGM, faut être top en biologie. Pour suivre un débat sur les questions nucléaires, faut vraiment être bon en physique. Pour suivre machin. Donc, ils ont sans arrêt besoin aussi de formation. Et l'association aide aussi à ça pour pouvoir former, entre guillemets, les journalistes, pour pouvoir suivre les débats, pour pouvoir... tout simplement, savoir suffisamment même pour pouvoir poser de bonnes questions.
D'accord. Je vais faire une petite comparaison, mais c'est peut-être un peu une forme de syndicat qui dit pas son nom, non, en termes de. Alors c'est pas dans la même boîte, mais c'est dans la même branche. Est-ce qu'il y a un rapport peut-être ?
Il pourrait y en avoir s'il y avait des vraies revendications. D'ordre salarial, par exemple. Mais il n'y en a pas vraiment.
La thématique qui vous rallie, en fait.
Ouais, c'est vraiment la thématique. Ça nous permet aussi d'être sûr qu'on peut aussi se refiler des tuyaux. C'est aussi une façon pour nous d'arriver à. Je sais pas. Par exemple, oui, on peut jouer le rôle un peu de syndicat si on dit. De façon presque militante, on a envie, par exemple, de briser le secret défense qui entravent notre boulot, par exemple, sur les sites nucléaires, sur les sites militaires, etc.
Justement, vous avez pas mal travaillé sur le nucléaire, à ma connaissance, donc.
Vous savez tout.
J'ai fait une petite recherche quand même. Avec Internet aujourd'hui, on sait tout, sur tout et sur tout le monde. Donc vous connaissez pas mal de choses sur le nucléaire. Justement, donc, qu'est-ce que vous avez à dire justement sur le nucléaire, en partant d'exemple de nucléaire, sur cette thématique guerre-environnement? Et moi, personnellement, le nucléaire, j'avais vu ça en cours auparavant sur les relations internationales. On m'a parlé beaucoup de l'équilibre de la terreur, ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur en termes de théorie des relations internationales. C'est-à-dire que s'il y a deux pays qui ont l'arme nucléaire, bah, c'est très bien parce qu'en fait, ils ne vont pas se taper dessus parce qu'ils ne sont pas assez fous pour aller se bombarder les uns les autres. Donc du coup, en fait, ce qu'on appelle aussi par de toute façon, en fait, c'est que ça va apporter sûrement la paix dans le monde parce que cette dissuasion nucléaire, c'est-à-dire quand on va dissuader un autre pays de ne pas être notre ennemi, juste avec l'arme nucléaire. Donc bon, je me fais un peu l'avocat du diable quand je dis ça, mais c'est un argument en tout cas qui est utilisé, qui est sérieux, mais même des personnes de l'ONU qui le promeut. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ce type d'argument? Justement, je rentre dans le vif indirect, par rapport au nucléaire et par rapport à l'armement nucléaire, justement, en général. Donc voilà, j'attends votre réponse là-dessus.
Vous avez bien précisé que c'était une formation, un enseignement dans le cadre des relations internationales.
Exactement.
Ce qui est étonnant, c'est que dans ce genre de cours, de prestations, de transmission du savoir, on ne dit pas que, par exemple, au même moment, dans les années 80, il y avait un débat avec les plus grands scientifiques du monde, notamment soviétiques et américains, pour dire que si jamais ils se balançaient même 10% de leurs arsenaux respectifs, on allait avoir un hiver nucléaire. Toutes les plus grandes... la littérature sur ces questions-là revient aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'on est en train de se poser la question comment on va faire pour pouvoir éventuellement refroidir la planète, pas la réchauffer. Mais c'est très intéressant de voir jusqu'à quel point ça a toujours été lié. Et l'une des raisons pour lesquelles même les Soviétiques et les Américains, à un moment donné, ont décidé de mettre la pédale douce, c'est parce que justement ils ont découvert que peut-être que l'hiver nucléaire, c'est pas vraiment quelque chose dont ils avaient envie. Vous voyez, à chaque fois, c'est intéressant dans votre exemple, à chaque fois, on a essayé complètement de squeezer le débat en considérant qu'il y avait d'une part un débat purement stratégique et d'autre part un débat environnemental. Or, ils sont complètement liés. On ne peut pas les dissocier. On nous dit aujourd'hui, oui, mais attention, dans quelques années, il risque d'y avoir des îles qui vont disparaître à cause des modifications climatiques, climate change, que les Français ne savent pas traduire, donc ils traduisent par réchauffement climatique, mais ce n'est pas du tout ce que ça veut dire. Mais bon, bref, les îles, il y en a qui ont disparu. Pourquoi? Elles ont disparu à cause de certaines expérimentations nucléaires.
D'accord.
Il y a des tsunamis. Des tsunamis, il y en a. Il y en a eu notamment dans des endroits où on a fait des expérimentations nucléaires. C'est étonnant. Si vous parlez avec un militaire qui s'est occupé, par exemple, des questions nucléaires, lui, il peut très bien vous dire, oui, vous savez, on a abandonné, par exemple, le plateau d'Albion, où on avait des grands missiles intercontinentaux, pour une raison très simple. C'est qu'on savait qu'en fonction des vents, de toute façon, la radioactivité allait nous tomber sur la gueule. Donc, il faut que les environnementalistes ou les écolos se mettent dans la tête qu'il y a un lien direct entre ces questions qui ont l'air écolo et les questions de la guerre et de la paix. Je crois que c'est très important.
Mais là, on a un gros problème, justement, là-dessus, c'est que... Enfin, là, ce que vous citez, même moi, qui suis intéressé à la question, j'en ai pas trop connaissance. Je connais pas mal de choses, mais pas ces questions-là que vous avez citées. Il y a quand même un problème en termes d'information, là, clairement. C'est-à-dire qu'on n'a pas...
Ah oui,
il n'y a pas les bonnes informations.
On n'a pas les bonnes informations.
Pas assez, sinon. Il y en a peut-être, mais pas trop, quoi. Non.
Mais c'est probablement vrai pour toutes sortes de sujets qu'on a envie d'aborder. Je veux dire, aujourd'hui, on est dans on a à voir beaucoup avec les questions de la mobilisation sur justement les questions du climat. Mais c'est très, très bien. Moi, je suis d'accord qu'on en parle. Mais qu'on en parle alors aussi sérieusement. Qui sont les principaux responsables des modifications climatiques? Ce sont quand même les forces armées. Vous prenez un pays comme la Grande-Bretagne, le MOD, le ministère de la Défense, annonce officiellement qu'ils sont responsables de 75% des émanations de gaz à effet de serre. C'est purement le ministère de la Défense. Ils le disent eux-mêmes. Vous allez en Russie, j'ai failli dire l'Union soviétique, vous allez en Russie, vous avez maintenant des statistiques très claires. Le complexe militaro-industriel de la Russie, ça représente 55% des perturbations au niveau de l'atmosphère. C'est des choses qui existent. Le plus grand pollueur chimique et nucléaire aux États-Unis, c'est le Pentagone. Tout le monde le sait. Donc je vois pas pourquoi il y a une sorte de barrage là, un peu français peut-être. Ou peut-être à cause des vacances, ou peut-être parce qu'on déboulonne pas assez. Il y a un problème, mais il faut quand même qu'on mette ces choses-là l'un à côté des autres. Tout à l'heure, on parlait de voyage. Je trouve que c'est vachement important d'en parler, parce que si on parle d'un char, il faut aussi savoir combien il fait de litres au 100. Et un Mirage 2000, il fait combien de litres au 100? Ça, c'est important, parce que qu'on arrête, si on calcule bien les trafics qui ont eu lieu juste pour opérer pour la France et la Grande-Bretagne pour opérer en Libye, au niveau de la pollution, ça représente beaucoup plus comme empreinte écologique qu'une année de bagnole autour du périph' à Paris.
C'est incroyable.
Donc c'est bien de faire ce genre de rapprochement entre ce qui est, je crois, l'une des opérations les plus polluantes de l'humanité, qui est la guerre. Et depuis 5000 ans, il n'y a eu que 219 jours de paix, donc ça fait quand même pas mal.
219 jours de paix,
ouais.
On a encore du boulot alors.
On a encore du boulot.
Mais Ben, ce qui est assez étonnant dans ce que tu racontes, c'est que tu dis « tout le monde le sait
que... ». Ouais, mais j'exagère.
Tout le ouais. monde ne le sait pas, justement.
Tous les journalistes...
Je ne devrais pas dire ça. Je devrais pas dire ça.
Et alors, c'est vraiment vrai ce que tu dis, que la MOD... Ils admettent qu'ils sont responsables de 70% des émissions en Angleterre.
Oui, oui, il y a des rapports très, très sérieux là-dessus. Et en même temps, je crois que cette incantation de dire comme ça, tout le monde le sait, c'est une façon de dire j'aimerais beaucoup que les gens le sachent. Premièrement, et deuxièmement, c'est vrai que. On a de la peine à avoir ce genre d'infos. Et en France, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de publicité sur ces conséquences-là. Et d'ailleurs, pour le protocole de Kyoto, que les gens connaissent quand même un peu, c'est vrai qu'il y a une tentative d'exempter toutes les activités militaires. Et ça, c'est quelque chose que je pense que... si nous sommes un peu déboulonneurs, tous dans notre genre, on devrait aussi se préoccuper de cet aspect-là des choses. Et ça, c'est vrai pour des bases militaires aussi. Il n'y a pas de raison qu'une base militaire ne soit pas, n'ait pas les mêmes contraintes au niveau environnemental, au niveau de la législation, que les autres sites.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe aux vermicelles. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur repas, la tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Quand on devant ce résultat ne se dégonfla pas et joua les andouilles, au tribunal on l'a traîné et devant les jurés le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant les luttes immédiatement, chef du gouvernement.
Donc voilà, hein, donc vous étiez sur 106.3, Zoom Écologie, avec la bande à Bébert, et d'ailleurs, comme dit Bébert, salutations écologiques et solidaires. The Exxon Valdez wrecked itself, I suppose. What's left of the life in the Prince William Sound might not condone what our court of law found. And it's over, Hugo Royal. Yeah, creeping in the city. And it's over, and it's over. Buy it at the station, you can get it now for free. Just come on down to the shoreline where the water used to be. Right. Registered in through the Liberian tours, passing the Shetlands near Scotland's cold shores. What a single hull ship with his engine broke down. Drifted 5 hours and then ran aground. Right where a wildlife preserve chance to be. 20 million more gallons got free. Don't worry, folks, it's light crude, they did say. It'll probably break up and be gone right away. Oil,
oil.
Now it's all fuel. Creeping in the sea, and it's oil, and it's oil. Don't buy it at the station, you can get it now for free. Just come on down to the shoreline where the water used to be. Yeah. All right. In all respect to the mighty Hudson, I'm going to do a verse about the mighty Delaware.